a écrit ça?
C'est moi, mon petit bonhomme.
Tu te crois malin?
À quel atelier tu travailles?
Je suis désolé, mais je ne fais pas partie du bétail.
Parfaitement du bétail! Mais regardez-vous! Vous étiez les enfants de la commune, et qu'est-ce que vous êtes devenus maintenant, hein? Un troupeau! On vous ordonne, et vous obéissez! Faites quelque chose, moi je ne sais pas! Bétail pour bétail, vache pour vache, vous devriez apprendre à brouter l'herbe! Écoutez-moi! Regardez votre usine, regardez-la bien! Il serait peut-être temps de vous apercevoir que ce n'est pas votre usine, mais votre prison! Écoutez-moi! Ce que tu fais, fais-le pleinement, pas à demi, Ibsen! Le soleil ne donne la vie qu'à ceux en qui elle a déjà germé.
Tolstoï.
Les hommes passent la moitié de leur vie à se forger des chaînes et l'autre moitié à se plaindre d'avoir à les porter. Mirabeau, et surtout ouvriers, rappelez-vous bien ceci, les patrons sont des gens comme vous. Ils n'ont qu'une seule tête, ils n'ont qu'un seul cul. Écoutez-moi. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, la Ligue Guignol. Diriger, légiférer, réglementer, tarquer, espionner, contrôler. Qui n'ont ni la science, ni la vertu, ni le titre.
À la moindre résistance, au premier mot de plainte, être réprimé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi. Et pour comble, car oui, berné, joué, outragé, déshonoré.
La dernière fois, t'avais eu le temps de leur dire que c'était du Proudhon.
L'éphéméride anarchiste. À chaque jour sa révolution. Une pensée et quelques paroles pour ne pas oublier et ne jamais renoncer. L'éphéméride anarchiste sur Libre Radio au Festival Château-Bruyant. Le bon mot au bon endroit, www.libradio.org.
Voilà, cette éphéméride, on y va maintenant. C'est une rubrique que l'on fait trop rarement. Et effectivement, dans le jingle, on entend que c'est depuis Châteaubriand, parce que l'on l'a initié au festival Châteaubriand cet été, ici à Genève, au Paquis. Alors, juste avant de se lancer stricto sensu dans l'éphéméride anarchiste, voici une lettre qui a été publiée par le site attaque.noblogs.org concernant un des incarcérés anarchistes qui ont été appréhendés lors du G20 à Hambourg et pour lequel, bien entendu, l'on se solidarise, même si, bien entendu, nous ne saurions cautionner des actes de violence, tout ça. On sait tout de même d'où vient cette violence, effectivement, comment elle est générée. Et le G20, eh bien, évidemment, c'est un pic. On reviendra là-dessus parce qu'il s'agirait de s'interroger sur la raison des surgissements de ces violences-là et en fait quelles sont-elles, ces violences fondamentales qui sont bien plus implicites et bien plus insinuées comme ça sans qu'elles, et qui avancent bien entendu masquées. Voilà, alors Hambourg, Allemagne, lettre du compagnon Ricardo de la prison de Bielefelder. Je suis actuellement détenu dans la prison Bielefelder d'Hambourg. J'ai été arrêté vendredi 7 juillet à 19h30 dans les alentours du Rote-Flora. Je suis accusé d'outrage à l'État, d'avoir mis en danger la sécurité publique, d'avoir joué un rôle actif au sein d'un groupe de 15 personnes qui a affronté la police, en particulier d'avoir tenté de blesser un agent de la section spéciale de Bloomberg, habilité à effectuer des arrestations et à récupérer des preuves. Je ne reconnais pas la dichotomie coupable-innocent proposée par les appareils de l'État. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est que je suis fier et heureux d'avoir été présent pendant le soulèvement à Hambourg contre le G20. La joie de vivre à la première personne, la détermination d'individus de tout âge et des quatre coins du monde qui n'ont pas encore cédé à la tentation de se soumettre à la logique de l'argent et du monde capitaliste ne pourra être anéantie par aucune mesure de contrôle, jamais. Dans une époque historique où le capitalisme cherche à donner le coup définitif et nécessaire à son établissement, dans une oscillation continue entre guerre interne, loi spéciale, fermeture des frontières, déportation, et guerre externe, massacres indiscriminés, destruction et empoisonnement de la planète Terre, la révolte d'Hambourg contre le G20 a montré ce qui est plus important pour ceux qui ont encore au cœur la liberté, la possibilité de sa réalisation. L'efficacité technologique, physique et tactique de la police allemande a été, de fait, autant impressionnante et épouvantable qu'inutile pour désamorcer d'abord et réprimer ensuite l'exigence d'agir contre la société mondiale absurde et catastrophique que le G20, que les 20 pathétiques chefs d'État étaient là pour montrer avec mesquinerie, blindés dans le cœur de la cité. Les résignés et les réformistes pourront dire que, vu les rapports de force s'étant développés ces dernières années entre les pouvoirs et ses sujets, celui d'Hambourg a été une énième expérimentation de masse pour vérifier la solidité des appareils de sécurité internationale. Du reste, c'est aussi ce qui avait été dit après le G8 de Gênes en 2001. Les rebelles et les révolutionnaires, cependant, ne font pas les comptes avec les diétrologies de la politique, mais avec leurs propres sentiments et leurs propres projets. Dans tous les cas, même s'il en était ainsi, il me semble que l'on peut réaffirmer que cette expérimentation a totalement échoué. Dans les rues d'Hambourg, j'ai respiré la liberté incontrôlée, la solidarité active, la fermeté de refuser un ordre mortifère imposé au reste de l'humanité par quelques riches et autant de puissants. Puis, plus de files interminables d'automobiles ni de processions ordonnées qui, tous les jours, sanctifient la liturgie oppressive et assassine du système capitaliste. Plus de masses indistinctes contraintes de se plier et de suer pour une survie anonyme en faveur de l'enrichissement de quelques patrons voraces. Plus de milliers de regards absents dirigés vers quelques écrans aseptisés qui aliènent et déforment notre expérience de vie. J'ai vu des individus lever les yeux au ciel pour tenter de l'attraper. J'ai vu des femmes et des hommes donner corps à leur créativité et à leurs fantaisies les plus réprimées. J'ai vu les énergies de chacun impliquées pour tendre une main à d'autres qui ne s'érigent au-dessus de personne. J'ai vu la sueur goûter des fronts pour satisfaire leurs propres désirs plutôt que ceux de quelques bourreaux. À l'heure de la révolte, personne ne reste jamais vraiment seul. Une forte accolade à tous les copains et les compagnonnes, à toutes les rebelles et les rebelles, prisonniers et prisonnières de l'État allemand. Un salut passionné à Anna, Marco, Valentina, Sandrone, Danilo, Nicola, Alfredo, les copains et les copines en procès pour l'opération Scripta Manent en Italie. Aux révolutionnaires et aux rebelles prisonnières et prisonniers dans les prisons du monde. Une bise à Juan, qu'importe où tu es, là où tu es toujours avec nous. Tant qu'elle existera, toujours contre l'autorité, toujours à tête haute, vive l'international anticapitaliste pour Carlo, Alexis, Rémi, pour la liberté. Et c'est signé Ricardo depuis la prison de Bilverder, Hambourg, le 20 juillet 2017. Si tu souhaites lui écrire, c'est simple, c'est à l'adresse suivante. Ricardo Lupano, 09 06 1985, GWA Bilverder, j'appelle BILWERDER, c'est à Dverlandweg 100, DWERLANDWEG 100, 2213, Hambourg, Allemagne. On mettra bien entendu l'adresse en lien sur le site de Libre Radio. Voilà pour cette lettre qui parvient aux camarades depuis le fin fond d'une prison de Hambourg. On va y aller juste après un petit jingle, on va y aller directement avec l'éphéméride anarchiste.
Ni la lumière, ni l'obscurité ne sont là où on le prétend. La bibliothèque du peuple, lecture sur place, prêt gratuit, anonyme et par correspondance. Info sur www.libertaire.noblogs.org.
Voilà. Alors, c'est donc la rubrique l'éphéméride anarchiste. Alors, la source de cette rubrique est toujours la même. C'est le site www.fmanar.net. E-P-H-E-M-A-N-A-R.net. Site magnifique, comme toute une série de sites, infokiosque.net, tout ça, desquels, bien entendu, nous sommes à l'affût tout le temps pour piocher des informations, etc. Alors, le 12 août 2017, ça c'est aujourd'hui, et un 12 août, eh bien, il s'est passé plein de choses un peu partout dans le monde. C'est bien sûr pas exhaustif, c'est d'un point de vue anarchiste que l'on fait et que l'on sélectionne justement certains événements. Un 12 août 1861, naissait Luigi Galleani à Versailles, c'est dans le Piedmont italien, Vercelli. Voilà, figure importante de l'anarchisme italo-américain. Il fait des études de droit en vue de devenir avocat, mais découvre les idées anarchistes et devient rapidement un militant important. Mais alors que le mouvement socialiste s'oriente vers le parlementarisme, la répression frappe les anarchistes. Arrêté, il est condamné en juin 1894 à 3 ans de réclusion. Emprisonné sur l'île de Pantelleria, il s'en évadera. Pantelleria, c'est une île qui maintenant est abordée par les personnes en exil hein, qui remontent des pays d'Afrique. Il voyage alors en Tunisie, en Égypte, en Angleterre et débarque début octobre 1901 aux États-Unis. À peine arrivé à New York, il donne des conférences et collabore au journal La Questione Sociale, la question sociale, dont il deviendra le principal rédacteur. Le 18 juin 1902 à Paterson, il vient soutenir les ouvriers d'une usine de textile en grève. Orateur de talent, il incite les grévistes à manifester leur révolte. La provocation d'un contre-maître fait alors basculer la manifestation en émeute. La loi martiale est décrétée du 20 juin au 2 juillet. Galéane y est activement recherché. Il trouve refuge à Montréal avant de revenir l'année suivante aux États-Unis sous un faux nom. Le 6 juin 1903, il fait paraître un nouveau journal en italien, Cronaca Sovversiva, la chronique subversive. Partisan de l'action directe et de l'insurrection, il s'oppose à la tendance organisationnelle au sein du mouvement. À partir de 1908, la Questione Sociale, donc la question sociale, est interdite de diffusion. La répression anti-anarchiste s'amplifiant avec la guerre, Cronaca Sovversiva sera quant à elle interdite dès juillet 1918. À New York, le 1er mai 1919, donne lieu à des affrontements. Galéane y est arrêté peu après et expulsé du territoire le 24 juin 1919, avec de nombreux autres anarchistes. De retour en Italie, précisément à Turin, il fait réapparaître le 17 janvier 1920 avec Max Sartin, Cronaca Sovversiva. Après la prise du pouvoir par Mussolini, il ne cessera d'être persécuté par le régime et emprisonné à plusieurs reprises. Il meurt à Caprigliola le 4 novembre 1931. Un 12 août, le 12 août 1921, naissait Diego Camacho Escamés, dit Abel Paz, un de ses nombreux pseudonymes à Almeria en Espagne. Militant anarchiste et anarcho-syndicaliste, écrivain et historien du mouvement anarchiste espagnol. Fils d'ouvrier agricole, il apprendra à lire en 1927 à Barcelone, où il vivait chez son grand-père et son oncle Diego, qui est un militant de la CNT. À partir de 1932, il aura la chance de suivre les cours de l'Escuela Natura du quartier de Clos, école rationaliste dirigée par le pédagogue libertaire Juan Puig Elias. Il rentre ensuite à 13 ans comme apprenti dans une usine textile où il rejoint les rangs de la CNT, donc les anarcho-syndicalistes. En 1935, il retourne dans sa famille à Almeria et commence à militer dans les jeunesses libertaires. En février 1936, il revient travailler à Barcelone où il fréquente l'Ateneo Eclectico, l'Athénée éclectique. Il n'a que 16 ans alors qu'éclate la révolution de juillet 1936. Ne pouvant à cause de son jeune âge se joindre aux colonnes de miliciens qui partent vers Saragosse et le front en Aragon, il adhère à la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, et crée avec deux compagnons, Liberto Sarao et Federico Arcos, le groupe Los Quijotes del Ideal, les Quichotes de l'Idéal, et publie en septembre 1937 un numéro d'un petit journal El Quijote. Il travaille dans un atelier de chaudronnerie et est quelques jours détenu au moment des affrontements de mai 1937. Il assiste au plénum régional des jeunesses libertaires en 1937, en juin. En octobre, il rejoint avec Victor Gracia et Liberto Sarao la collectivité de Gervia, près de Lérida, et collabore à Tierra y Libertad, puis à Ruta. Il assiste également au plénum des jeunes en 1938, puis part sur le front. En janvier 1939, il traverse la frontière française pour y chercher refuge. Il est alors interné dans divers camps de concentration à Saint-Cyprien, à Argelès, à Barcarès, à Bram, notamment en 1939-1940, puis employé comme travailleur forcé, il effectue divers travaux et participe près de Saint-Jean-de-Luz à la construction du mur de l'Atlantique voulu par les nazis. Il parvient à s'enfuir et à rejoindre Bordeaux, puis Marseille, où il réside un temps avec Victor Garcia. arrêtés et détenus avec Libertos Sarao d'avril à juin 1942, ils choisissent de retourner à Barcelone pour poursuivre la lutte clandestinement. Il y est arrêté le 8 décembre 1942 et restera détenu jusqu'au 13 avril 1947. Mais il est de nouveau arrêté en août 1947 après avoir assisté à un plénum clandestin des jeunesses libertaires à Madrid. Il purge encore 5 années d'emprisonnement, durant lesquelles il poursuit, jusque derrière les barreaux, une activité militante qui lui vaudra 15 jours d'interrogatoire en mars 1949. Libéré en 1952, il reprend son action clandestine jusqu'en 1953, puis retourne en France où il vivra jusqu'en 1958 avec la militante Antonia Fontanillas. Il prend part à l'intense activité militante du mouvement libertaire espagnol en exil. Il exerce divers métiers, participe aux événements de mai 68 et entreprend des études d'histoire à la nouvelle faculté de Vincennes, puis devient historien. Outre sa collaboration à la presse libertaire espagnole, il réalise divers ouvrages sur la guerre d'Espagne et en particulier une biographie remarquée de Durruti. En 1977, il s'installe à Barcelone, dans le quartier populaire de Gracia, où il continue à écrire. Il y meurt le 13 avril 2009 et avec lui disparaît un des derniers témoins et acteurs de la révolution libertaire espagnole. Seuls quelques-uns de ses ouvrages ont été traduits en français, notamment un anarchiste espagnol Durruti, La colonne de fer, Guerre d'Espagne, Buenaventura Durruti, Barcelone 1936, un adolescent au cœur de la révolution espagnole. Voilà pour Abel Paz. Figure évidemment tutélaire hein, dont nous nous inspirons énormément et notamment au travers de ses écrits et de ses témoignages, puisqu'effectivement c'est quelqu'un qui a traversé la guerre d'Espagne. On sait l'importance de la guerre d'Espagne dans les théories anarchistes et dans les pratiques également libertaires. Voilà, un petit jingle et puis on finit avec 2 mini-rubriques encore concernant l'éphéméride anarchiste, mais j'ai besoin de boire.
La bibliothèque du peuple. Site des grottes, extension mobile et décrochage à l'espace 99. 3 espaces-temps pour trouver des brochures et de l'utopie. Lieu décontaminé du consumérisme et or, rapport de domination, la bibliothèque du peuple envenime les situations et rétablit l'horizontalité. Livres, jeux, brochures et BD, causeries, débats, réflexions et réfections, tu y trouves ce que tu y mènes. La solidarité, l'entraide, l'ordre moins le pouvoir. La bibliothèque du peuple, c'est la dialectique du peuple. www.noblogsavecuns.org. Quitte le vieux monde des Cathy. Rejoins l'écume des jours nouveaux. Tous les dimanches et pire encore.
Voilà, effectivement, Abel Paz, il faut souligner le caractère de témoignage de son travail, non seulement le travail d'historien, donc argumenté et extrêmement rationnel, et puis également le fait que, comme c'est quelqu'un qui est passé au travers de ces moments historiques, et il n'est pas seulement passé au travers, mais il les a vécus de sa personne, c'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a pu également témoigner. Il a fait de nombreuses tournées, notamment en Italie, et notamment également dans le sud de l'Italie. Je me souviens d'un entretien avec des journalistes de Sicilia Libertaria, par exemple, qui est exceptionnel. Voilà. 2 petites choses encore concernant l'éphéméride anarchiste. Déjà, une première chose, c'est de rappeler le site internet duquel on s'inspire pour cette rubrique, qui est à l'adresse suivante, www.fmanar.net, E-P-H-E-M-A-N-A-R.net. Et là-dessus, vraiment, c'est une ressource, c'est un puits de ressources incroyable, gigantesque. Ça vaut vraiment la peine d'aller dessus. Alors, encore 2 petites choses, parce que ce sont des choses qui sont plus proches de nous géographiquement. Le 12 août 1893 à Lyon, juste à côté de Genève, sortie du premier numéro du journal L'Insurgé, organe communiste anarchiste de la région du Sud-Est. Le gérant de cet hebdomadaire, paraissant tous les samedis, est L.J. Jacom, auquel succédera à partir du numéro 4, PH. Salonville. 15 numéros sortiront jusqu'au 18 novembre 1893. Le journal s'arrête ensuite victime de la répression policière. La révolte du 25 novembre 1893 en relate les faits. Je cite, « Lundi matin, une bande de policiers s'est ruée dans les bureaux de l'insurgé. On a procédé à un pillage en règle, papier, lettres personnelles, brochures et tout ce qui concerne le journal. Ils n'ont pas fait d'arrestation, ce n'était pas au programme. On sauvera la société un autre jour. » Fin de citation. Voilà pour L'Insurgé, organe communiste anarchiste de la région du Sud-Est, paraissant tous les samedis à l'époque. En 12 août 1894, à Paris, se clôt le procès des 30 qui s'était ouvert le 6 août, destiné à justifier les mesures de répression contre les anarchistes et à rassurer l'opinion publique après les récents attentats. Le réquisitoire de l'avocat général Bulot s'emploiera sans succès à prouver une entente et une prétendue association de malfaiteurs entre les divers prévenus, qu'ils soient théoriciens, militants ou simples voleurs. Prévenus qui, certains ne se connaissaient même pas, n'eurent aucun mal à réfuter l'accusation. Cela n'empêchera pas l'avocat général de demander une peine sévère pour les théoriciens du mouvement comme Jean Grave, Sébastien Faure, Louis Mata, etc. La tentative de machination judiciaire n'échappa pas aux jurés qui prononcèrent un acquittement général, sauf à l'encontre de trois prévenus coupables de vol qui écoperont de plusieurs années de bagne. Voilà. Et puis pour en terminer, le 12 août, hein, 12 août toujours, 1883, après l'adoption du drapeau noir par les anarchistes, dû pour une grande part aux interventions de Louise Michel, le premier numéro d'un journal portant ce titre, le drapeau noir justement, organe anarchiste, sort ce jour à Lyon, ville qui avait vu les Canuts brandir cet emblème lors de leur révolte de 1831 et de 1834. Le journal sera victime de la répression également et cessera sa parution à son 17e numéro le 2 décembre 1883. C'est l'Émeute, un autre journal qui lui succédera. Et voici une courte citation, c'est sur les hauteurs de la ville de la Croix-Rousse et à Vaise que les travailleurs, poussés par la faim, arborèrent pour la première fois ce signe de deuil et de vengeance et en firent ainsi l'emblème des revendications sociales. C'est l'extrait du numéro 1 du journal. Son apparition consignée remonte en fait à une révolte d'ouvriers terrassiers à Reims début 1831 qui le brandirent, donc le drapeau noir, en signe de désespoir et de misère. À noter que diverses publications anarchistes porteront également ce titre, dont un autre journal marseillais. Voilà pour le drapeau noir anarchiste et voilà pour la rubrique de l'éphéméride anarchiste. Nous faisons une deuxième pause musicale et puis juste derrière, eh bien, ce sera le temps de la présentation des sans-culottides avant que, a priori, l'on ne reçoive par contumace, puisque ce sera une interview par Skype, notre premier invité. Et ça concerne le magazine vegan, la parution du nouveau numéro de Carotte Invaders.
Souviens-toi Madrid 2007 dans ses trams de métro. 11 novembre, date où combat Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud.
Quatre camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinato. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo.
Les coups de la matinée, nos frères et sœurs couffent. Italien à Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide rafale.
Meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'État complice. Assassin Anastasia Pavlova, aidé par la police.
David César et 2003, 1000 ans, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusqu'au corps les autres couteaux.
C'est en sortant de chez lui qu'est abattu Fyodor Filatov dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non, jamais, on baissera les bras, nos traits n'est pas factice.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non, jamais, on baissera les bras, nos traits n'est pas factice. Jules rencontre dans cette station une lame de 15 cm, perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qu'il a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en traite. Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri. S'en prennent à Timur, Katia Rava et ses deux amis, trop de morts encore pour Rodenko et Ryukin. 23 décès, 240 blessés, 2010 en Russie.
Retour en Italie, je débarque par les Drenato. Créateur du label Rinoise, faire de lance antifascho. Reggae alternatif, en faire péter la sono. Antifax s'y fait planter, à coup de couteau dans le dos. Je ne partirai pas aussi vite que la balle que marquait l'or par-dessus. En pleine tête, en plein jour, à Moscou et en pleine rue. Défenseur des droits des opprimés et des invaincus. Malgré la répression, nous resterons toujours convaincus. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non, jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non, jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice.
Démo, démo, antifa, démo, 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 antifa, démo, 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 Laurent Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris.
Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche, il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital.
À tous ceux et toutes celles qu'on a oubliées, ceux et celles que les brins ont et vont martyriser. Ziganes hongrois humiliés, syndicalistes colombiens tués, zapatistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnies agressées, indépendantistes tortues, exterminées. Nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli, ni pardon. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes, jamais non jamais on baissera les bras, notre haine n'est pas facile.